l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8.
Soyez les bienvenus dans Présence Midi, c'est une belle émission que nous avons préparée avec Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous confirmez ?
Ah oui, ça va être formidable, on va parler de jeux de société, voilà. On va parler d'annonce de la foi, on va parler de jeunesse.
Ça va être formidable, voilà. On va jouer dans cette émission effectivement, puisque ce week-end c'est le pic du jeu.
Exactement, c'est un festival qui fait la promotion des jeux de société et nous aurons dans quelques minutes au téléphone François Lafitte qui organise ce festival ce week-end à Tarbes. Il est le président de l'association Le Pion de Fer.
Et puis à votre micro, aux alentours de 12h30, Inès Janet qui est au service de la paroisse du Pays de Lourdes.
Exactement, Inès Janet qui est une jeune femme artiste. Elle chante, elle compose, elle joue de plusieurs instruments et depuis le début du mois de septembre, elle est chargée de mission pour la paroisse du Pays de Lourdes, engagée en particulier auprès des jeunes. Elle met son art au service de l'annonce de la foi.
À écouter juste après le journal de 12h30 et dans un instant, c'est l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Mais auparavant, on retrouve Mathis Saint-Onac pour les titres à la une de l'actualité régionale.
Les urgences du CHU de Toulouse réduisent leur capacité d'accueil jusqu'à fin décembre, faute de personnel suffisant, et ferment les urgences ambulatoires. Depuis cette semaine, les propriétaires du quartier Arnaud-Bernard doivent obtenir un permis de louer pour tout logement vide ou meublé, afin de lutter contre l'habitat indigne, indique la municipalité. Un caddie contenant des affiches racistes et menaçantes a été découvert près de l'école Alfred Musset à Toulouse, un acte dénoncé par la maire de quartier comme inadmissible. La Chambre de commerce du Lot organise la nuit de l'orientation et de la formation ce jeudi à Cahors. Des ateliers et des rencontres pour jeunes parents, salariés et demandeurs d'emploi sont prévus. Des militaires du 4e régiment d'hélicoptères de Pau s'entraîneront à Villecomtal-sur-Arros les 5 et 6 novembre lors d'une simulation d'exfiltration en conditions réelles. Enfin, Gaillac célèbre le centenaire de l'exposition des arts décoratifs avec une balade urbaine mercredi et une conférence le 20 novembre. Attention, réservation obligatoire.
Merci Mathis Saint-Onac. On vous retrouve dans moins d'une demi-heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. Dans un instant, direction le diocèse de Tarbes et Lourdes.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence.
On sillonne les diocèses dans cette émission. On s'arrête aujourd'hui à Tarbes, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, avec Anne-Rose Jankovic, que j'ai le plaisir d'accueillir. Oh, bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
À qui faire confiance aujourd'hui? C'est le titre, le thème de cette 32e quinzaine du Narthex.
Exactement, 34e édition de la quinzaine du Narthex. À qui faire confiance aujourd'hui? Ça a démarré, cette quinzaine du Narthex, ce lundi, voilà, en début de semaine, avec déjà une conférence sur le thème de la confiance dans la société. Puis ça se poursuit pendant 15 jours, avec notamment, notez-le cette semaine, ce vendredi 7 novembre, une conférence de Pierre Vincenot, qui est informaticien et qui parlera d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, confiance ou défiance. Ça se passe à 18h30 à la Bourse du Travail à Tarbes. Et puis les rendez-vous se poursuivent ainsi jusqu'au 14 novembre, avec même un petit supplément début décembre, mais je vous en parlerai en temps et en heure. En tous les cas, pour cette semaine, notez bien vendredi 7 novembre à 18h30 à la Bourse du Travail à Tarbes pour entendre cette conférence sur l'intelligence artificielle.
Voilà, la quinzaine du Narthex à Tarbes. On rappelle que le Narthex, ça se trouve à l'entrée des églises.
À l'entrée des églises, c'est un lieu de rencontre, d'échange, et donc d'où le nom pour cet événement qui existe à Tarbes depuis des années et qui permet aux personnes, à la fois de se rencontrer, d'échanger, de débattre aussi sur des thèmes qui concernent toute la vie de la société.
On reste à Tarbes avec la marche des clochers. Ça va se passer dans l'agglomération tarbaise entre la commune de Sousse et Bazette.
Exactement. Alors l'objectif est très simple. Il s'agit de prendre le temps de se connaître pour tous les chrétiens qui vivent dans ce territoire de la paroisse de Tarbes et du pays de Tarbes. Alors il y a cette marche des clochers qui est organisée. Alors l'idée, c'est d'aller de clocher en clocher précisément. C'est ouvert à tous. Ça commence à 10h le samedi 15 novembre avec un rendez-vous à l'église de Sousse, et puis les marcheurs suivront le Caminadour. Vous connaissez sans doute, Gilles, ce chemin le long de la Dour, avec un petit parcours déjà le matin de 5 km environ. Les marcheurs passeront à l'église Sainte-Thérèse en centre-ville de Tarbes. Il y aura un pique-nique bien sûr, et puis la marche reprendra en direction du lac de Bourg. Alors là il y aura un peu plus de 6 km après-midi, et puis ça repartira pour une dernière étape jusqu'à l'église de Bazette avec une arrivée prévue à 18h, la messe célébrée. Alors l'objectif, c'est que tout le monde puisse venir marcher et se rencontrer, profiter de cette journée conviviale, mais vous pouvez aussi rejoindre la marche à un moment ou à un autre. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, et puis vous pouvez aussi vous organiser en covoiturage, ça va ensemble tout ça. Il s'agit vraiment de se retrouver, de s'entraider et de mieux se connaître. Donc c'est le samedi 15 novembre.
15 novembre, créer du lien entre les paroissiens, cette marche des clochers donc dans l'agglomération tarbaise. On va aller à côté de Tarbes, pas très loin de Tarbes, à Pouillastruc, avec ce concert solidarité.
Oui, alors c'est un concert solidarité qui est organisé par l'équipe du Secours catholique de Pouillastruc, mais cette équipe organise un concert à Ourcq, donc dans le même territoire, dans un village pas très loin, le 15 novembre à 20h30 avec l'artiste Anna Jorg. L'objectif, c'est de récolter quelques fonds pour aider le Secours catholique à mener sa mission dans ce territoire. C'est un concert solidaire qui est ouvert à tous, donc le samedi 15 novembre à 20h30, en la salle des fêtes de Ourcq.
On poursuit cet agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes avec cette conférence à ne pas manquer, conférence qui va nous permettre de mieux connaître le père Vergès. Pourquoi cette conférence, Anne-Rose ?
Oui, alors le père Pascal Vergès, c'est un prêtre de notre diocèse. Il est né le 17 mars 1910 à Aucun, c'est dans le Val d'Azun. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Tarbes et Lourdes le 2 juillet 1935, et il est mort le 12 décembre 1944 en haine de la foi au camp disciplinaire de Zochen. Le père Pascal Vergès sera béatifié le 13 décembre prochain en la cathédrale Notre-Dame de Paris avec 49 de ses compagnons. C'est une grande fête, une grande joie pour le diocèse de Tarbes et Lourdes d'avoir dans quelques jours, dans quelques semaines, un de ses prêtres, un de ses enfants, un des enfants du pays qui sera béatifié. Alors, c'est l'invitation est faite à tous les catholiques du diocèse de Tarbes et Lourdes de vraiment mieux connaître le père Pascal Vergès, sa vie, son parcours jusqu'à cette mort tragique au camp disciplinaire, au camp de travail de Zochen. Et pour cela, pour mieux le connaître, bien, on vous invite à une conférence qui sera donnée le mardi 18 novembre à 18h30 en la maison diocésaine Saint-Paul à Tarbes. C'est Monseigneur Jacques Perrier, l'évêque émérite de Tarbes et Lourdes, qui donnera cette conférence. Et puis, au fur et à mesure des mois qui passeront, il y aura d'autres rendez-vous importants pour à la fois connaître le Père Pascal Vergès, mais aussi rendre grâce pour cette béatification.
Voilà, conférence à ne pas manquer, donc 18 novembre prochain. Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je voulais aussi annoncer que dans quelques jours, le diocèse de Tarbes-et-Lourdes aura la chance d'accueillir quelques franciscains du Bronx. Alors, vous savez sans doute que les franciscains du Bronx vivent en communauté religieuse. C'est un modèle de vie religieuse un peu atypique qui est mondialement connu puisqu'ils sont installés depuis une quarantaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, dans l'un des quartiers les plus défavorisés de New York, donc le Bronx. Et ces franciscains qui ont fait vœu de pauvreté, ils donnent vraiment toute leur vie pour Jésus et puis pour aider les plus pauvres. Voilà, c'est toutes ces personnes défavorisées qui vivent dans ce quartier du Bronx. Ils seront dans le diocèse de Tarbes et Lourdes dans quelques jours pour différents rendez-vous, dont celui-ci avec les jeunes le vendredi 21 novembre à la maison Saint-Paul à Tarbes, la maison diocésaine. Ils rencontreront les lycéens, les étudiants et les jeunes pros pour leur parler de la mission. La mission, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ils témoigneront de leur vie dans ce quartier du Bronx. Ça se passera donc le vendredi 21 novembre de 19h45 à 21h pour les jeunes du diocèse. Ils parleront également de sainteté, de vocation et de prière avec ces frères qui vivent une vie toute donnée et tout à fait atypique.
Voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être organisateur d'un événement dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, il ne faut pas hésiter à nous contacter, à vous contacter, Anne-Rose.
Oui, pardon, j'ai un problème avec mon casque. Oui, bien sûr, il faut contacter le diocèse de Tarbes et Lourdes, le service communication, pour partager avec le plus grand nombre vos informations. Toutes les informations sont importantes puisque, quand vous vous rassemblez à deux ou trois ou quatre dans votre paroisse, dans une petite communauté à laquelle vous appartenez, quand vous vous rassemblez pour prier, pour louer le Seigneur, pour réciter le chapelet, prier le chapelet, c'est un signe d'espérance qui nous intéresse tous. Donc, n'hésitez pas à nous le dire pour que nous puissions le dire tous.
Et l'annoncer, sachant que j'ai cru comprendre que le bulletin diocésain était en préparation. Et
le bulletin diocésain du mois de décembre, voilà, qui paraîtra donc la semaine de Noël, est en cours de préparation. Bouclage à la fin du mois. Si vous avez des annonces à faire passer, c'est maintenant que ça se passe.
Voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Merci Anne-Rose Jankovic.
Présence.
Vous restez avec nous dans un instant. On va jouer. Vous m'entendez, j'ai un petit problème de casque donc avec Anne-Rose. Dans un instant, on la retrouve avec son invité. On va parler du pic du jeu. Ça va se passer ce week-end et ça va se passer au parc des expositions de Tarbes.
Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi. J'ai tout.
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi dans un quart d'heure, le journal régional. Mais pour le moment, on retrouve Anne-Rose Jankovic et son invité.
Présence à Cahors, 92.5.
Bonjour François Lafitte.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Le Pion de Fer. Vous œuvrez depuis plusieurs années maintenant pour promouvoir le jeu de société dans le département des Hautes-Pyrénées. Vous organisez la troisième édition du festival Le Pic du Jeu. C'est ce week-end, les 8 et 9 novembre, donc à Tarbes, au Parc Expo de Tarbes. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, comment ça se passe, un festival des jeux de société? Qu'est-ce qu'on y fait exactement?
Alors, un festival de jeux de société, l'idée c'est de faire découvrir en fait l'univers du jeu de société qui est très vaste. Ça va du jeu de société, du jeu de plateau, jusqu'au jeu de rôle, jusqu'au escape game, tout ce qui va tourner en fait autour de moments conviviaux avec des amis ou de la famille. Et en fait, nous, quand on met en place le festival du jeu de société, donc la troisième édition cette année, on amène plus de 200 jeux cette année qu'on met à disposition avec des animateurs bénévoles qui vont vous expliquer les règles. Ce qui est un peu compliqué dans le jeu de société, c'est d'apprendre les règles. Donc ça, on vous facilite le travail. Et on met on est à presque 300 tables à peu près de jeux. Et autour de ça, il y a aussi des tournois sur des jeux spécifiques. Il y a aussi du spectacle interactif avec des jeux un peu connus comme le Loup-Garou, où on a une troupe de théâtre qui fait ça. On a des quiz aussi en direct. Et voilà, en fait, on permet de faire découvrir à toutes les générations tous les différents jeux qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché.
Donc les gens viennent jouer, viennent découvrir de nouveaux jeux et peuvent les acheter aussi?
Alors oui, on a une boutique partenaire, la Ludicaverne de Tarbes, qui est avec nous. Il y a aussi Figurine Passion. C'est deux boutiques qui sont à Tarbes depuis de nombreuses années maintenant. Et en fait, alors la Ludicaverne, c'est essentiellement des jeux de société, des jeux de rôle et tout ce qui va tourner autour de ça. Et Figurine Passion, c'est beaucoup des jeux autour des figurines, parce qu'on a aussi des représentations de figurines qui font de la mise en place, en fait, par exemple de la guerre mondiale avec différentes figurines qui représentent bien ces moments-là. Il y a un tournoi, d'ailleurs, il y a un concours de peinture sur figurine qui est organisé justement par les peintres sur figurines, qui permet de gagner justement. Qui permet de gagner des lots, etc. Donc on met en avant aussi tout ce côté-là.
Quel public est intéressé? Quel public vous ciblez en particulier? En 2024, vous avez eu plus de 3500 visiteurs. Oui. Quels sont les profils des visiteurs qui sont intéressés pour découvrir des jeux de société? Est-ce que ce sont des parents qui traînent leurs enfants pour les décrocher des écrans?
Alors, c'est un peu les deux, mais en fait, on a tous besoin de décrocher un peu des écrans, pas forcément les enfants, les grands, toutes les générations.
Vous avez raison.
L'avantage de ce genre de jeu de société, c'est que c'est multigénérationnel. C'est-à-dire, les grands-parents vont pouvoir jouer avec les enfants, etc. Il y a plein de jeux qui sont adaptés pour les enfants, mais comme pour les adultes. Il y a des jeux experts, il y a des jeux très complexes, il y a des jeux qui prennent beaucoup de temps, d'autres qui sont très rapides. On a vraiment tout un panel de jeux. Il n'y a pas vraiment une génération cible, parce qu'en fait, l'idée, c'est de retrouver toutes les générations un peu en même temps. Alors il y en a qui sont spécialisés dans les jeux, dans l'espace, etc., qui vont être des amis étudiants ou pas étudiants, mais qui vont vouloir vraiment aller chercher des références par rapport à des films qui seraient sortis ou des livres de science-fiction ou d'heroic fantasy, etc. On va retrouver en fait tout cet univers un peu pop culture autour du jeu de société aussi.
Pour que ça marche, il faut que le jeu soit raccroché à un film, à un livre qui a marché, ou à un univers particulier. Harry Potter par exemple, ou ça.
Alors on en a pas mal aussi. En fait, c'est intéressant d'avoir des films comme ça ou des livres, parce qu'en fait ça va amener ce public à s'intéresser aux jeux de société, et de là ils vont découvrir des jeux de société qui sont encore plus intéressants, parce qu'aujourd'hui les jeux de société c'est vraiment des œuvres d'art. Ils sont tellement bien faits, la mécanique est tellement bien faite, souvent les pièces maintenant sont en métaux ou en bois, c'est taillé, c'est vraiment très très beau, très esthétique. Il y a une ergonomie comme ça qui facilite justement la motricité. C'est ça qui est intéressant aussi chez certaines personnes, chez tout le monde, c'est d'apprendre justement à déplacer facilement, à reprendre en main quand on a eu un AVC ou quand on a eu des difficultés motricielles, etc., ou même neurologiques pour avoir de la réflexion, travailler la mémoire. le fait de jouer aux jeux de société, on fait tout ça, on fait tous ces travaux, etc., mais de manière ludique et en s'amusant. Donc du coup, ça amène quelque chose qui est très constructif pour l'ensemble des générations, en fait.
Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui ? Est-ce que c'est le développement de nouveaux jeux qui ouvrent à une certaine créativité, comme vous venez de l'expliquer, ou est-ce qu'il y a aussi une part de réédition des jeux anciens ? Est-ce qu'on joue encore aux mille bornes et aux petits chevaux ?
Alors oui, on y joue encore. On y joue encore. Ils ont été améliorés. Ils ont rajouté des mécaniques. On a des jeunes auteurs. Il y a une jeune autrice, je crois qu'il y a 12 ans, qui vient au festival parce qu'on fait venir des auteurs aussi de la région, de toute l'Occitanie, qui a repris le petit chevaux justement et qui a rajouté des pouvoirs spécifiques pour les personnages. Alors avec l'aide de sa maman, hein, elle est venue à l'association un soir nous le présenter pour tester un peu, pour optimiser. Donc oui, on reprend un peu les classiques. Il n'y a pas vraiment de jeu vraiment top niveau. En fait, c'est très aléatoire, c'est très subjectif. Ça dépend des personnes et de l'envie qu'on a et du temps qu'on a à y passer.
Vous parliez tout à l'heure des jeux multigénérationnels. Ça marche bien. Vous le constatez dans les gens que vous recevez, les visiteurs qui viennent à votre festival. Les grands-parents jouent avec les enfants, les aînés des familles jouent avec les plus petits. Il y a des jeux qui permettent ça.
Oui, complètement. Il y a beaucoup de jeux qui sont adaptés en fait à toutes les générations. Et par exemple, il y a un jeu comme Dragomino dont on a souvent parlé. C'est un jeu qui ressemble à des dominos, mais on va retourner aussi des œufs de dragon. Donc on va débloquer des petits dragons, etc. Donc pour l'enfant, c'est ludique, c'est rigolo parce qu'il y a des dragons, parce qu'on peut poser des petites cases de dominos avec les volcans, les montagnes, tout ça. Mais pour le parent, s'il veut un petit peu plus de complexité, il y a des petits combos qu'il peut faire pendant le jeu pour essayer d'optimiser ses ressources et optimiser son placement. Donc en fait, l'enfant s'amuse sans même pour autant forcément trop de complexité, mais les parents qui sont aussi avec l'enfant qui joue peuvent aussi se faire des petits défis entre eux pour essayer d'optimiser encore un peu plus la mécanique en fait. Et ça amène l'enfant à comprendre qu'il y a d'autres façons aussi d'amener du résultat et du score. Parce que bon, souvent, on cherche à gagner. On travaille aussi sur la frustration de perdre, alors que ce soit les enfants ou les parents.
Ouais, donc le jeu est un outil pédagogique là.
Complètement, et de loisir en fait.
Qu'est-ce qui vous plaît à vous, François Laffitte, dans un jeu de société ? Enfin, comment vous en êtes venu à créer cette association qui fait la promotion des jeux de société ?
Alors moi, en fait, ça vient de l'époque où j'étais étudiant, où je faisais des jeux de rôle. Il n'y avait pas, alors je suis pas tout jeune, hein, c'était la fin des années 90, il n'y avait pas trop de jeux de société nouvelle génération. Et là, depuis 10-15 ans, suite à l'ouverture de la boutique La Ludique Caverne à Tarbes, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de jeux de société qui avaient énormément très 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 bien évolué en fait, et qui moi me plaisaient beaucoup parce que je suis passionné par l'espace, etc. Donc j'ai beaucoup de jeux autour de l'univers de l'espace, terraformation de planètes, etc., conquête de systèmes solaires, etc. Donc je suis arrivé là-dedans comme ça en fait.
On n'a pas parlé du coût d'un jeu de société. On peut le voir dans n'importe quel magasin. C'est vrai que ce sont des produits qui sont beaux, qui sont bien faits, aussi avec un packaging qui est très travaillé. Tout cela a un coût. L'accès aux jeux de société, finalement, n'est pas si facile et si évident que ça.
C'est vrai, ouais. En fait, ça l'entrée de gamme, par exemple, un jeu comme Spot, qui peut se mettre dans la poche et qui peut se jouer jusqu'à 6 joueurs, c'est des petits dés qu'on lance, ça va être dans les 10-12 euros, ça c'est accessible. Un jeu un peu plus complexe, on va partir sur du 30-40 euros, ça peut aller jusqu'à 100 euros sur certaines éditions. Donc c'est pour
ouais,
ça
c'est
que
un
nous,
budget quand même, oui.
Ouais, c'est un budget. C'est pour ça que le festival est gratuit, justement pour pas qu'il y ait de distinction sociale du public. Pendant 2 jours, il y a 200 jeux à disposition. Vous pouvez tous les tester et voir un peu ceux qui vous plaisent. Et ensuite, à la Ludique Caverne de Tarbes, par exemple, il y a aussi des jeux d'occasion. Quand on a fini par faire 200 parties et qu'on veut acheter un nouveau jeu, on peut le ramener à la boutique, en acheter un autre, on a un bon d'achat, etc. Donc il y a, quand vraiment on veut jouer, on peut trouver des moyens d'avoir des jeux accessibles qui sont pas très chers. Et qui sont très bien et de très bonne qualité.
En dehors de ce festival, le reste de l'année, comment vous travaillez à cette promotion du jeu de société ?
Alors en fait, nous, on a monté donc une association, Le Pion de Fer, à Tarbes, depuis fin 2022. On va arriver sur nos 3 ans, là, bientôt. Novembre 2022, c'était. Et en fait, on a 3 rendez-vous hebdomadaires chaque semaine, le lundi, le mardi, le vendredi, de 19h à 11h, à peu près, jusqu'à minuit, des fois, le vendredi, où on accueille, en fait, on a une grande salle que nous loue la mairie de Tarbes, où on accueille tous les membres de l'association et tous les visiteurs. Donc c'est comme ça qu'en fait on promeut un peu l'univers du jeu de société trois fois par semaine toute l'année.
Et ça c'est ouvert à tous ?
C'est ouvert à tout le monde, ouais. Ouais. Il y a une adhésion à l'année qui est de 20 euros. En milieu d'année, on fait à 10 euros. Parce qu'on, voilà. Donc, c'est pas très excessif. Mais et ça permet de venir à tous les rendez-vous. Et on fait aussi beaucoup d'animations dans les restaurants et les bars. On a, par exemple, Au Bureau, qui est un partenaire. Oui. C'est un restaurant sur Tarbes qui est partenaire avec nous, qui nous aide beaucoup. Et où on fait beaucoup d'animations le dimanche, le jeudi soir. Sur des quiz, sur l'univers Heroic Fantasy, etc. On a le Petit Arbé aussi, un petit restaurant aussi. On a plusieurs restos, bars comme ça, chez qui on fait des animations, pour faire connaître justement au grand public qui n'est pas forcément connaisseur de ces nouveautés de jeux.
Donc et vous amenez le jeu de société chez les gens en fait, là où ils sortent.
On va les chercher.
Vous allez les chercher. François Lafitte, quel est votre jeu préféré à vous? À quoi vous jouez, vous, avec vos amis?
Moi, c'est Terraforming Mars. C'est mon jeu préféré. C'est un jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans. Et c'est un jeu, en fait, où on va... c'est plus ou moins coopératif. C'est-à-dire qu'au début, on est tous ensemble. On va terraformer la planète Mars. C'est-à-dire qu'on va augmenter l'oxygène, augmenter les océans, augmenter les forêts, développer des bactéries, développer des animaux. Tout ça avec ce qu'on appelle un deck building. Donc, c'est plein de petites cartes qu'on pioche au fur et à mesure qui nous permettent de développer tout ça. Et en fait, il n'y a qu'un seul gagnant quand même à la fin. Mais c'est de manière collaborative. On augmente l'oxygène ensemble de la planète. On augmente les forêts ensemble, etc. Donc moi, c'est mon jeu.
Un jeu qui a du sens en plus. Voilà.
Oui, en plus, oui. Oui. Voilà.
Un dernier mot, François Lafitte, si vous deviez peut-être encourager les gens qui boudent un peu les jeux de société ou qui n'ont pas trop de goût pour les jeux de société, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner des bonnes raisons de s'y mettre?
Ben, je leur dirais que c'est la meilleure façon de passer du temps avec des amis et de la famille en s'amusant, en rigolant, en faisant plus quelque chose de concret, de ludique, et ensuite en passant un peu du temps ensemble, vraiment recréer du lien, et ça permet vraiment de s'ouvrir à tout ce qu'on a autour de nous et de prendre du plaisir à être ensemble.
Le Pic du Jeu, 3e édition de ce festival du jeu de société, c'est à Tarbes ce week-end, c'est 8 et 9 novembre, c'est donc la 3e édition, ça se passe au Tarbes, voilà. Au parc Expo de Tarbes. Les horaires, vous pouvez nous...
Alors c'est le samedi de 10h à 23h, ouverture au public, et le dimanche de 10h à 19h, et la grande nouveauté cette année, c'est qu'on a doublé la superficie. On est deux fois plus grand, on a 2600 m², parce que l'année dernière, victime de notre succès, il y a eu trop de monde. Et les gens n'arrivaient pas, ils devaient attendre pour pouvoir s'asseoir pour poser leur jeu. Là, cette année, on a doublé la superficie. Donc, on va vraiment pouvoir accueillir tout le monde et on espère arriver à 4000 personnes dans le week-end.
2600 m² dédiés donc à l'univers des jeux de société, vraiment sous toutes ses formes. C'est un festival entièrement gratuit et ouvert à tous. Merci beaucoup et j'indique que le site internet lepiondefer.fr, lepiondefer.fr, il y a toutes les indications et puis des idées de jeux. Voilà. Merci beaucoup. Merci François Lafitte.
Très bonne journée.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Et merci aussi à vous, Anne-Rose Jankovic. Quel est votre jeu de société préféré?
Moi, j'aime bien jouer au Uno, c'est tout simple. Mais j'aime bien aussi le Mille Bornes. Et j'aime bien pas mal de jeux, en fait. J'aime bien jouer, oui, j'aime bien m'amuser. Bien.
Voilà, jeux en famille.
Exactement, au coin du feu avec un chocolat chaud.
Voilà, mais écoutez, c'est formidable.
Et des madeleines et des crêpes, enfin, vous voyez, ce genre de choses.
Et on a compris que ce week-end, vous amenez vos enfants au Pic du Jeu.
Mais oui, mais c'est vrai que j'y suis déjà passée. Et j'encourage vraiment les auditeurs à y faire un tour parce que il y a de bonnes idées et puis ça permet aux enfants vraiment de s'amuser, de découvrir de nouveaux jeux et ça partage aussi quelques valeurs, notamment le respect et l'écoute. Voilà, donc jouez avec vos enfants.
Bien, merci.
Ah oui, donc il reste 45 secondes, non, il faut que je vous encourage encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube du diocèse de Tarbes et Lourdes, ça s'appelle Bigorre TV. Je vous rappelle, Gilles, que le 1000e abonné aura une petite surprise.
On n'y est toujours pas, au 1000e? Vous n'avez pas regardé encore?
Si, je regarde assez souvent, mais on n'est pas encore au 1000e, mais ça approche. Et puis, il y a bien sûr l'application Au Clocher qui vous permet à la fois de suivre les actualités du diocèse, mais également de partager les actualités qui se passent dans vos paroisses, vos services, vos mouvements, etc. Donc, il y a de quoi faire pour s'informer dans le diocèse de Tarbes et Lourdes.
Vous restez avec nous puisque dans un instant, la suite, c'est avec votre invité. Vous allez recevoir à votre micro Inès Janet.
Inès Janet, une jeune femme artiste pétillante qui a beaucoup de choses à nous dire sur la transmission de la foi. Il est 12h30.
Et c'est maintenant Mathis Setsena que nous recevons pour le journal régional. Voilà, ben, vous avez l'horloge sous les yeux, c'est formidable. À tout de suite, donc, Anne-Rose Jankovic.
Les services d'urgence du CHU de Toulouse restreignent depuis ce début de semaine et au moins jusqu'à fin décembre leur capacité d'accueil, faute d'effectifs suffisants. Dans un communiqué, la direction de l'hôpital annonce une réorganisation temporaire des urgences adultes, avec une activité recentrée sur la prise en charge de patients qui nécessitent des soins immédiats. Les urgences ambulatoires, elles, fermeront complètement leurs portes. Depuis ce début de semaine, dans le quartier Arnaud-Bernard, au cœur de Toulouse, les propriétaires qui souhaitent louer un logement vide ou meublé devront obtenir un permis de louer, dispositif expérimenté pour une durée d'une année. Les logements sociaux, commerces et locations touristiques sont exclus. Ce permis sera délivré sous 30 jours par la mairie, après le remplissage d'un questionnaire en ligne. Selon la municipalité, cette mesure vise à lutter contre l'habitat indigne et renforcer la qualité du parc locatif toulousain. Un caddie rempli d'une vingtaine d'affiches d'injures et de menaces de mort à caractère raciste a été retrouvé hier près du groupe scolaire Alfred Musset à Toulouse. Ce sont des parents d'élèves qui ont fait la découverte à une trentaine de mètres à peine de l'entrée de l'établissement. Cécile Dufraisse, la maire de quartier, réagit et dénonce des propos inadmissibles et odieux. Elle ajoute qu'en cas de réitération de l'opération, le premier réflexe est d'appeler la police. Jeudi 6 novembre de 14h à 20h, la Chambre de commerce et d'industrie du Lot ouvre ses portes à Cahors à l'occasion de la deuxième édition de la Nuit de l'orientation et de la formation. L'événement gratuit s'adresse aux jeunes parents demandeurs d'emploi et salariés en reconversion. Au programme, une soixantaine de professionnels présenteront des métiers et des formations avec des rencontres individuelles, des ateliers et des visites en réalité virtuelle. Les habitants de Villecomtal-sur-Arros, dans le Gers, vont assister à l'arrivée de militaires les 5 et 6 novembre prochains. Le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales de Pau se déploiera pour une simulation en conditions réelles. Deux marches d'orientation nocturne sont prévues. L'objectif, entraîner les soldats aux opérations d'exfiltration. La ville de Gaillac, dans le Tarn, propose deux événements pour fêter le centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Le premier, prévu mercredi, est une balade urbaine de 1h30, départ 15h. Le second, une conférence, se déroulera le 20 novembre. Attention, dans les deux cas, une réservation est obligatoire.
Merci Mathis Setsena, voilà, qui fait partie de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info sur notre antenne, ce sera à partir de 13h avec l'actualité nationale et internationale. Dans les prochaines minutes, on va s'intéresser à l'histoire des Halles de Lourdes, une histoire tout à fait originale. Ce sera avec Julie de l'Office de tourisme de Lourdes. Mais pour le moment, la suite de cette émission, c'est avec Anne-Rose Jankovic, à son micro Inès Janet.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Bonjour Inès Janet.
Bonjour Anne-Rose.
Je suis vraiment ravie de vous recevoir au micro de Radio Présence. Inès, vous êtes chargée de mission pastorale au sein de la paroisse du Pays de Lourdes. Inès, vous êtes une artiste depuis toute petite.
En effet.
Vous chantez, vous écrivez, vous composez, vous êtes musicienne et ça vous mène loin. Du haut de vos 25 ans, vous avez déjà un beau parcours. On va commencer peut-être par vraiment les prémices. Comment est né ce goût pour la musique, le chant, pour l'art? Je crois que votre famille y est pour beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel environnement vous avez grandi pour avoir, eh bien, aujourd'hui toute cette palette de talents?
Alors, je vais essayer de vous redire ça en quelques mots parce que c'est quand même pas mal d'années de ma vie, même si je n'ai que 25 ans en effet. Alors, j'ai grandi dans une famille de mélomanes. Mes parents n'ont pas du tout eu l'occasion de faire de la musique et ils avaient vraiment à cœur de nous transmettre tout ça. Donc, on faisait musique et sport. Et en l'occurrence, on a trouvé l'école de musique du village. J'ai commencé avec l'accordéon. Assez étonnant pour l'époque, parce que ça se faisait pas beaucoup. Et on a même fait partie d'un accordéon club à l'époque, à Astug. Par la suite, je suis rentrée dans le collège de jazz de Marciac. C'est là où j'ai commencé à faire mes classes et vraiment le jazz, c'est devenu mon grand amour. Et c'est pour ça qu'après le collège, j'ai été au lycée à Marie Curie afin d'être en spé musique et surtout être au conservatoire. Sauf que pendant que j'étais en terminale, on m'a contactée pour quelque chose d'assez spécial, pour faire un casting pour Bernadette Delourde, la comédie
le
musicale.
Le grand spectacle.
Le grand spectacle, en effet, qui a
connu
été joué
dans le monde entier.
Oui, c'est vrai qu'il sort bientôt là, ou si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, aux États-Unis. Il a été vendu là-bas et donc j'ai été de ceux qui ont fait démarrer le spectacle, en fait.
Donc vous étiez encore très jeune quand vous avez intégré cette troupe ?
J'étais en terminale. J'étais seulement en terminale. C'est assez drôle d'ailleurs. C'est un ami, Francisco, qui m'en avait parlé à l'époque. Il m'avait dit il y a un casting sur Lourdes, pourquoi pas le tenter ? C'était déjà pour un rôle en plus, donc j'avais à peine 17-18 ans, en terminale donc, et je pars faire ce casting sans rien attendre, parce que moi je savais partir dans la musique, mais plutôt le jazz. Et finalement, j'ai été recontactée, très étonnant, en pleine classe de sport, par Grégoire à l'époque, et la productrice du spectacle Éléonore de Galard, pour me dire que j'étais prise. Donc je me suis retrouvée à 18 ans à peine à Paris, à la scène musicale, pour faire les répétitions. Et ensuite, la suite, on la connaît. J'ai fait 2 saisons ici à Lourdes, entrecoupées par le Covid. Et ensuite, j'ai continué dans l'artistique jusqu'à l'année dernière.
C'est là que vous avez compris que la musique était quelque chose d'essentiel dans votre vie, y compris dans votre vie de foi.
Exactement. Je savais depuis jeune que je voulais faire de la musique, mais au point d'être artiste en tant que métier, je ne savais pas encore. Et ça s'est dessiné avec ce spectacle-là. Et au même moment où j'ai commencé dans ce spectacle, c'est vrai que je me suis dit, c'est génial, parce que je peux parler de ma foi ouvertement, j'ai pas à m'en cacher. Et je commençais à composer, en fait. Et du coup, mes chansons ont commencé petit à petit à se teinter de Dieu. Et donc, à la fois, c'était une double lecture, parce qu'à la fois, je pouvais parler clairement à des chrétiens, ils savaient de quoi je parle. Et en même temps, ça permettait peut-être de toucher du doigt quelque chose pour des personnes qui sont athées. Parce que je parle pas directement de Dieu dans mes chansons.
Voilà, alors ces chansons-là, aujourd'hui, vous continuez à les écrire, on peut les trouver
Alors hélas, pas encore, mais bientôt. Il faut que je me dépêche un peu d'ailleurs. J'ai signé avec un éditeur qui est sur Paris, le CMC Studio. Et je travaille d'ailleurs avec mon petit frère Valentin Janet, qui est aussi dans le milieu artistique, qui a un studio avec mon grand frère Mathieu.
C'est une sorte de famille, en plus.
Exactement. On est tous très artistes. Et donc ça s'appelle Studio Témoin. Et Valentin donc s'occupe d'enregistrer mes chansons et de faire les arrangements. Donc on aimerait sortir pour l'année prochaine justement les titres.
Alors ce qu'on comprend, c'est que vous avez mené donc ce parcours d'artiste, cette carrière déjà très très jeune. Mais on voit que au fond de votre cœur, finalement, le souci de la transmission, de l'annonce de la bonne nouvelle, a pris quand même le dessus.
Exactement.
C'était essentiel pour vous.
Ah mais oui, tout à fait. J'ai jamais. Enfin, en tout cas, je ne crois pas avoir trop eu honte de parler de ma foi, même au travail. Alors, sur Bernadette, ça tombe bien, on peut en parler ouvertement.
Oui, mais vous n'avez pas fait que ça, puisqu'après le spectacle Bernadette, vous avez eu d'autres aventures professionnelles dans le milieu
de
la musique.
C'est ça, je ne suis pas restée sur Lourdes si longtemps que ça, parce qu'après, j'ai filé sur Paris, et ensuite en Provence, pour un parc à thème, le Rocher Mistral, qui est au milieu de la Provence, entre Salon et Aix. Et en tout cas, à l'époque, qui accueillait des artistes pour faire des petites comédies musicales, des spectacles de cascadeurs, etc. Donc beaucoup de choses, des spectacles son et lumière. Et là-bas, pareil, pourtant, j'étais entourée de personnes athées, et très très loin de la foi. Et en fait, je n'étais pas gênée pour en parler de ma foi, concrètement.
Alors justement, souvent on parle de ce milieu-là, le monde du spectacle, comme un univers étant vraiment très loin, voire complètement opposé de la foi, justement. Vous êtes sentie à l'aise là ? Ça n'a pas abîmé votre relation à Dieu ? Vous n'avez pas senti parfois que votre foi pouvait être en danger dans cet environnement ?
Eh bien, pas du tout. Dieu merci, il m'a mis de sacrées racines. Non, il a fait grandir, je pense, de belles choses dans mon cœur, ce qui fait que j'ai jamais douté de ce en quoi je croyais et j'ai pas voulu m'éloigner du droit chemin, on va dire. Et du coup, non, je voyais que j'étais bien différente, hein, ça c'est sûr, parfois on se sent un petit peu à la marge. Et en même temps, il y a de tout, c'est-à-dire que j'ai été surprise de rencontrer dans le milieu artistique des gens qui se disaient évangéliques, d'autres catholiques, d'autres juifs aussi. Il y avait de tout en fait, il n'y a pas que des athées, et même les athées, beaucoup sont très ouverts finalement. Donc c'était pas un problème de parler de foi, au contraire, c'était un lieu justement où je pouvais, où il y avait du dialogue. Et ça c'était génial. Et c'est à partir de là, où quand j'étais en Provence, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, j'ai été contactée par Marie-Alice Lafargue, c'était pour l'ACED à l'époque, donc collège-lycée. Elle avait entendu dire que je voulais, j'avais cet appel à transmettre la foi, parce que ça faisait un petit moment que je me posais la question, mais en même temps, je voyais bien que j'étais artiste et que je voulais continuer là-dedans. Et donc, elle m'a appelée en me disant, Inès, j'ai entendu dire ça, est-ce que tu voudrais revenir là, dans la région pour... Justement, être animatrice en pastorale scolaire sur la Cède et Saint-Pierre.
A priori, on peut se dire que ça n'a rien à voir.
Rien à voir, absolument, on peut le dire.
Vous passez du monde du spectacle à une aumônerie de collège et lycée, c'était ça le projet.
Tout à fait.
Et
tout
c'est
à
ce
fait.
Que vous avez fait.
Exactement.
Vous n'avez peur de rien, Inès.
Mais c'est l'Esprit Saint qui donne. En fait, justement, je pense que j'étais pétrie de beaucoup de craintes et à un moment donné, je lui ai dit, mais écoute, Seigneur, si tu veux quelque chose, tu te débrouilles. Ok, j'y vais. Et j'ai foncé, tout simplement.
Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert auprès de ces jeunes ?
J'ai découvert que je ne savais rien sur ma foi. Et c'est génial, en fait, parce que quand on est face aussi à cette réalité-là, on passe notre temps à réinterroger les Écritures, à se réinterroger nous-mêmes dans notre relation à Dieu. Et aussi... on dépeint aujourd'hui une jeunesse qui est très éloignée de Dieu, qui n'est pas très spirituelle, qui n'est pas forcément très maligne aussi. Et en fait, moi, je me suis retrouvée face à des gamins qui m'ouvraient les yeux sur des réalités du monde, certes, mais aussi spirituelles, qui étaient dingues, quoi. Et parfois, ils sont beaucoup plus théologiens que nous-mêmes, quoi. Et donc,
c'est-à-dire ils portent en eux des vraies questions, des questions de fond, des questions qui ont du sens.
Complètement. Et ça a été une grâce, du coup, d'être confrontée à tout ça, qui plus est à des personnes athées, parce que aussi, moi-même, ça m'a permis de comprendre quelle était ma foi. Quand il y a un jeune qui vient vous voir en disant, bah voilà, moi, je veux pas entendre parler de l'Église catholique, parce que elle a l'air d'être très fermée par rapport aux homosexuels, elle déteste les athées, qu'est-ce qu'on fait de toute la question de la transidentité? Ou bien, on m'a demandé aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'immigration avec votre regard chrétien? Et c'est des questions actuelles, et il faut savoir y répondre aussi.
Alors, quand on a à peine 25 ans, comment on est assez armé pour répondre à tout ça? Eux, ces jeunes, ils veulent une réponse. Ils veulent une réponse solide qui va vraiment les satisfaire. Ils veulent une réponse immédiate. Comment vous faites à 20 et quelques années pour mener cette aventure?
Je pense que quand on voit Jésus, comment il fonctionnait, c'était un vrai rabbi. Les rabbis, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils posent des questions. Jésus, souvent, nous pose des questions. Il ne nous donne pas forcément les réponses. Et en fait, je pense qu'à n'importe quel âge, on peut avoir 65 ans, et du haut de ces 65 ans, on n'a pas forcément les réponses aux questions. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on s'interroge ensemble et on fait le chemin ensemble. Et je pense que moi, qui avais beaucoup d'incertitudes par rapport à ce métier, parce que je me suis retrouvée catapultée là, et je me disais, mais... tu sais rien faire par rapport à ça, c'est pas du tout ton métier au départ, t'es chanteuse et comédienne, rien à voir. Et ben finalement, j'ai réalisé que ces jeunes-là avaient beaucoup plus confiance en quelqu'un qui leur disait « Bah écoute, pour l'instant je n'ai pas la réponse et je vais prendre le temps de faire mes recherches et même tu sais quoi, on peut chercher ensemble. » Et ils préféraient venir me demander que parfois, c'est peut-être dommage d'ailleurs, mais se tourner vers un prêtre qui lui peut-être avait certaines réponses. Parce que bah, déjà, ne serait-ce que de par mon âge, ils se sentaient compris, ils se sentaient écoutés, parce qu'ils voyaient que c'était un vis-à-vis en fait. Ouais. Ils n'avaient pas une impression de supériorité et du coup, eux, d'infériorité.
Donc un rapport de confiance quand même qui est à la base de ces échanges-là.
C'est ça. Et finalement, bah, les réponses parfois je les trouve. Et puis de toute manière, il faut, j'ai envie de dire, s'adapter à chacune des personnes en face de nous. On ne parle pas de la même manière à chacun. À chacun.
Alors, de cette aventure au collège lycée Prado-Lacède à Tarbes, vous êtes arrivé au début septembre là, de cette année à la paroisse du Pays de Lourdes, donc cette grande paroisse nouvellement organisée, pour être, comme je l'ai dit au début de l'émission, chargée de mission pastorale. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là, chargé de mission pastorale? Ça veut dire quoi? Vous êtes à nouveau dans ce cadre de l'aumônerie avec des jeunes?
Alors c'est vrai que le mot peut faire un peu pompeux et un peu peur au début. Alors simplement, justement, moi-même, je me posais un peu la question, mais qu'est-ce que je fais là ? Et c'est rien de plus, si je puis dire, que, en effet, mettre en place une aumônerie, la faire vivre. Donc comment ça se passe concrètement ? J'ai des heures de permanence. Donc du lundi au vendredi, en tout cas pour l'instant, les jeunes peuvent venir dans ma salle pour passer du temps avec moi, me poser
donc,
des questions.
Votre salle, elle est dans les salles paroissiales, au niveau des salles paroissiales de la paroisse de Lourdes.
Oui,
donc,
c'est ça.
En centre-ville.
Centre Saint-Pierre.
Voilà, le centre Saint-Pierre.
C'est 14 rue Barthérès à Lourdes.
Voilà.
C'est ça. Et donc, ils peuvent venir à n'importe quelle heure du jour pour me voir. Même, j'ai envie de dire, pas forcément pour me parler, parce qu'en fait, c'est un espace de vie. J'ai beaucoup entendu dire, et c'est un leitmotiv que j'aime bien, l'église, ça doit être un lieu où il fait bon vivre. Et donc, vivre, qu'est-ce que c'est ? Quand on est dans une famille, on apprend beaucoup. On apprend à devenir un enfant, on apprend à devenir un adulte, on apprend à devenir quelqu'un dans sa propre famille. Et pourtant, on se met pas autour d'une table et maman, le professeur, va commencer à enseigner. Pas du tout. C'est des choses qui, il y a des choses qui s'apprennent en vivant. Et du coup, c'est un lieu où on se retrouve, où on peut faire des jeux de société. J'en ai quelques-uns qui sont chrétiens d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. On peut discuter, on peut lire. Il y a de quoi grignoter. On peut papoter en fait autour d'une tisane, autour d'un gâteau. Et en fait, oui, je suis là pour bien sûr, pour être une présence, mais aussi pour répondre aux questions qui pourraient se poser sur leur propre vie, sur l'existence, sur la foi, sur tout, en fait.
Donc, vous organisez, en plus de cette présence au quotidien, des temps de rencontre. Là, ce sont des temps d'aumônerie, comme il peut y en avoir ailleurs. Là, ça s'adresse à quel public ? On parle toujours des collégiens et lycéens, c'est ça ?
Alors, justement, on a deux temps de rencontre, c'est-à-dire un pour les collégiens et lycéens qui a lieu les vendredis de 18h à 20h30, toujours au Centre Saint-Pierre. Et donc là, c'est rythmé par des temps de louange, par un enseignement, mais qui est quand même... pas comme à l'école. Ils sont déjà toute la semaine à l'école. Le vendredi soir, c'est bon, on lâche la pression.
Ils soufflent.
Donc l'idée, c'est qu'on se retrouve à partir d'un sujet qu'on aborde. Et justement, au début de l'année, on a eu à cœur de leur demander, leur poser la question, mais finalement, vous voulez qu'on parle de quoi ? Parce que nous, on a déjà des propositions, on a déjà des thèmes qu'on peut aborder. Il n'y a pas de souci, on pourrait en avoir 500 000 même s'il faut. Mais vous, de quoi est-ce que vous... qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Donc on va essayer d'étudier tout ça pendant l'année. Bien sûr, ce sera ponctué, puisqu'on suit aussi un peu le calendrier liturgique par des activités ou des soirées d'aumônerie un peu spécifiques par rapport au temps. Par exemple, on aimerait beaucoup, pour la période de l'Avent, commencer à mettre en place les messes animées par les jeunes, ou bien jeunes et chorale. Tout ça, c'est en réflexion, mais on va mettre ça en place parce que, en fait, une église, c'est tous ensemble que ça se vit. Et c'est pas les jeunes dans leur coin, ou bien les personnes plus âgées dans leur coin, c'est tous ensemble. Et donc, pourquoi pas les faire rendre actifs, eux aussi.
Donc, une messe animée par les jeunes, ça veut dire des talents là, de chanteurs et musiciens. Vous revenez un petit peu à vos sources.
Finalement, ça n'a pas été inutile.
Mais c'est intéressant aussi de voir la place de l'art dans la transmission de la foi, parce que j'imagine que ces jeunes, si le temps de louange est bien animé, bien chanté, avec un instrument qui sonne assez juste, c'est quand même plus agréable et plus facile de capter leur attention.
Ah, mais complètement. Mais quel que soit l'âge, d'ailleurs. Alors, on n'est pas là pour faire un concert, qu'on soit bien d'accord. En tant que musicienne et en tant que catholique, j'ai bien conscience qu'on ne mélange pas tout. Et en même temps, c'est vrai que peut-être que vous avez déjà été à une messe et vous avez senti que c'était un petit peu dur de rentrer dans la prière parce que ça chantait ou ça jouait pas toujours bien, il y a quelques fausses notes, etc. Et du coup, ça tombe bien parce que puisque je suis musicienne, je suis pas chef d'orchestre, mais je peux toujours bien mettre en place avec eux des répétitions pour préparer ces messes-là et puis même les temps de louange en effet, et que ce soit quelque chose de joli. Je voulais ajouter qu'en plus de ça, on a aussi les enseignements et échanges, des repas partagés. Et j'oubliais qu'on a bien sûr également des rencontres avec les jeunes pros et étudiants qui ont lieu les mardis soirs, à peu près une semaine sur deux. N'hésitez pas à me contacter, mais on en reparlera plus tard pour avoir les informations dans les détails. Et donc, on se retrouve pareil, de 19h à 21h, les mardis soirs, comme je disais, pour des temps de lectio divina, de louange, de messe, d'échange et d'enseignement autour de Saint-Marc, l'évangile de Saint-Marc.
Pour mener tout ça, vous travaillez en collaboration avec le curé de la paroisse, avec les prêtres qui sont en mission dans la paroisse ?
Oui, tout à fait. Je ne travaille pas toute seule, Dieu merci. Tout de suite, le père Jamais, lorsqu'il m'a contacté pour cette mission, il n'a pas voulu me laisser toute seule dans mon coin, parce qu'il a bien conscience, qui plus est en tant que vicaire général, que le diocèse, ça marche ensemble. Et du coup, chacune des paroisses, ça marche tous ensemble. Donc, je me suis toujours sentie accompagnée depuis le début par le père Jamais. Et le fait est que, pour mettre en place ces moments d'aumônerie, je travaille de près, en collaboration donc avec le père Jean Hazard. Voilà. Donc, je travaille avec les deux finalement, mais en particulier, on va dire, avec le père Jean. Et justement, je vous quitte pour ensuite filer le retrouver pour préparer l'aumônerie.
On va bientôt vous libérer. Vous avez donc lancé, alors c'était une nouveauté hein, pour la paroisse du Pays de Lourdes, hein, ce lancement d'aumônerie début septembre. En tous les cas, vous avez commencé à y travailler début septembre. Comment ça a été perçu et reçu dans la paroisse, et combien de jeunes vous avez là ? Comment ça a démarré tout ça ?
Alors, ça a été très bien mis en place, parce qu'il y a eu, on va dire, une messe d'envoi. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire messe d'envoi, mais le fait est qu'en tout cas, à la fin de la messe, le père Jamais a pris le temps de me présenter aux paroissiens.
C'est-à-dire que tous les paroissiens, y compris ceux qui ne vont pas venir à l'aumônerie parce qu'ils ont passé l'âge, ils sont concernés et ça les regarde aussi. Votre présence les regarde.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, j'ai trouvé ça très beau et très juste, en fait. Et c'est quelque chose qui se met de plus en plus en place dans les diocèses, d'avoir des lettres de mission, d'avoir des messes d'envoi pour présenter les ceux qui sont missionnés, quoi, parce que c'est hyper important de savoir, nous-mêmes, en tant que paroissiens, vers qui est-ce que je me tourne pour tel ou tel questionnement, tel ou tel besoin. Et donc, en plus de ça, c'est vrai qu'on a eu notre démarrage il y a 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et alors là, c'était incroyable. On s'y attendait pas avec le père Jean, mais on s'est retrouvés avec 28 jeunes, donc des collégiens et des lycéens, dans notre salle. On ne savait même plus où les mettre, tellement ils étaient nombreux, mais c'était une joie de les voir si nombreux, ça grouillait de vie. C'était merveilleux, merci Seigneur.
Merci beaucoup Inès Jeannet, belle mission avec ces jeunes.
Merci beaucoup.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Balade au Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Avec Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes, on va prendre la direction des Halles de Lourdes. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
On va s'intéresser à l'histoire des Halles de Lourdes, et cette histoire, eh bien, elle commence à Toulouse.
Exactement. Donc nos halles lourdaises, en fait, effectivement, sont originaires de Toulouse. Donc on va partir dans la ville rose pour démarrer un peu cette histoire. Effectivement, dans les années 1200, à Toulouse existait un marché qui s'appelait en fait le marché de la pierre. Alors pourquoi le marché de la pierre ? C'est que à l'époque on vendait beaucoup de grains parce que les gens faisaient leur pain eux-mêmes, et donc pour faire ces mesures de grains, on utilise la pierre pour les tares et pour arriver à mesurer de façon juste et équitable le poids du grain. Ces halles ont vécu en fait pendant plusieurs siècles, et donc ont connu un succès en fait assez important à Toulouse. Elles étaient fortement utiles, mais au fil du temps en fait le quotidien s'est un peu dégradé. Voilà, les halles devenaient en fait un peu insalubre. Donc il a été décidé dans les années en fait fin 1800 de mettre une structure en fait construite en dur, et donc à cette époque les architectes se sont inspirés de ce qu'on trouvait à Paris, et en l'occurrence les Halles de Paris, et donc a été construit à Toulouse donc des Halles, donc les Halles de la Pierre en fait sur un style baltard, et donc ça a été flambant neuf. Mais l'expansion de Toulouse à l'époque faisait que ces halles se trouvaient dans le prolongement de la rue de Metz et gênaient le développement de la ville. Donc elles ont résisté à peu près une trentaine d'années, fin 1800, il a fallu les démonter, voilà, parce qu'elles gênaient, et ça a permis d'ouvrir en fait sur une place qui est devenue la place Esquirol à Toulouse.
Ces halles de Lourdes ont donc été installées sur la place du Champ Commun à Lourdes. Elles ont donc été achetées en 1892 et montées en 1895.
Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé effectivement, c'est que on avait à Lourdes la place du Champ Commun, donc qui est une très ancienne place de marché pour la ville, hein, puisque de façon historique, on retrouve des éléments en fait qui datent des années de l'an 1000, où sur certaines cartes, on trouve en fait l'existence de cette place du Champ Commun. c'était le lieu où tous les paysans des vallées venaient vendre leur bétail. Donc on avait tout le bétail des vallées, notamment du Lavedan, qui venait à Lourdes. Et cette place, en fait, avait des marchés hebdomadaires et des foires annuelles. Il y avait 3 foires par an. Voilà. Et donc la volonté a été fin donc 1800 d'installer un bâtiment complémentaire, structuré, plus esthétique. Ça allait un peu dans le développement de la ville, hein, après les apparitions aussi, et avec l'arrivée des premiers touristes aussi. Enfin bon, tout ça faisait qu'il fallait pérenniser l'architecture de la ville. Et donc ces halles qui avaient été achetées à Toulouse ont été remontées à Lourdes. Alors, pas exactement de la même façon, hein. La structure reste la même, il a fallu l'adapter, fondre des piliers en métal en fait à Toulouse, les amener à Lourdes pour l'architecture, il a fallu rajouter de la pierre de Lourdes, s'inspirer aussi de la couleur de Lourdes, donc c'est pour ça qu'ils ont cette couleur rouge. Voilà, donc ça a permis de remettre une structure en place qui était plutôt emblématique et magnifique.
Autre date importante pour les Halles de Lourdes, c'est en 2008, puisque les Halles sont structurées en 2 parties, c'est toujours le cas aujourd'hui.
Exactement, donc 2008 c'est le dernier virage, on va dire, voilà, ils ont leur développement, leur essor, et effectivement en 2008, le bâtiment a été divisé en 2 parties, donc avec la création d'un pôle culturel avec la médiathèque, et la partie en fait Halles, donc marché couvert de l'autre côté, qu'on connaît aujourd'hui et qu'on peut aller visiter pour découvrir toute la gastronomie locale des Pyrénées.
Et la gastronomie locale des Pyrénées, on en parlera dans une prochaine chronique, ça fera l'objet donc d'un autre sujet sur ces Halles de Lourdes. Voilà, peut-être que la plupart des gens ne savaient pas que l'histoire des Halles de Lourdes commence à Toulouse. C'est grâce à Laurent de l'Office de Tourisme que nous avons appris énormément de choses aujourd'hui. Un grand merci, on se retrouve pour une prochaine chronique, Laurent, pour parler donc du contenu de ces Halles de Lourdes. Un grand merci et à très bientôt.
À bientôt, Gilles.
Balade en pays de Lourdes. En partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Au-delà de nos vents, passe notre frontière. Dans ces pays soleils de sable et de pierre. Malgré les prières, les dieux ont oublié ces maudites terres. Dans sa pauvre valise, de ses maigres affaires, une histoire banale d'homme et de misère. Sa chemise, ses ultimes richesses, ses deux bras courageux, sa rude jeunesse, et tout contre sa peau comme un trésor incarné. Son nom sur un sur des Highway 61, l'ombre d'un Zimmerman, petit train de loser pour un Rockefeller, brûler sa peau pour être un Batling. Quand chaque espoir se décline en dollars, jusqu'aux bannières où les stars s'affichent, sous les lumières tout est blanc, propre et riche, du jeudi noir jusqu'au bleu. Un chercheur d'or.
got my shoes,
oh my God.
Got my hands,
oh my God.
Nothing to lose,
oh my
God. But oh my love,
oh my God.
Got my faith,
oh my God.
Got my love,
oh my God.
And I'm free.
Présence à Mirande 104.2
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
La chute d'Al-Fasher aux mains des paramilitaires et la révélation de leurs crimes suscitent de plus en plus la préoccupation de la communauté internationale.